l'armée et la religion, deux institutions dont on sait à quel point elles sont importantes dans la société israélienne et dont on sait également à quel point il est difficile parfois d'évaluer avec précision cette importance et de comprendre quelle est la nature des relations qu'elles entretiennent avec la société, mais aussi avec l'État. Et c'est probablement plus vrai encore depuis les attaques terroristes du 7 octobre 2023 et le traumatisme qu'elles ont provoqué. La première difficulté, la plus évidente peut-être, les deux groupes sociaux qui incarnent en quelque sorte la religiosité juive en Israël entretiennent des relations diamétralement opposées à l'institution militaire. Pour les nationaux religieux, elles constituent, au même titre que l'État lui-même, presque une valeur en soi, ou tout au moins un instrument de rédemption. Alors que pour les ultra-orthodoxes, l'armée est au mieux un mal nécessaire, au pire, l'un des moyens utilisés plus ou moins consciemment par l'État dans la croisade qu'il mènerait contre le judaïsme traditionnel. Alors je généralise naturellement, chacun des deux groupes étant traversé par une multitude de courants et de sous-courants qui se distinguent justement dans leur relation à l'État et à l'armée et à leurs rôles respectifs. Cela étant dit, l'opposition que j'ai évoquée reste pertinente, pour la plus grande part en tout cas, des deux catégories, et elle est, on l'aura compris, d'une ampleur saisissante, qui n'a cessé de croître d'ailleurs depuis le 7 octobre. Pour mieux la comprendre, un petit rappel historique s'impose. Les différentes communautés ultra-orthodoxes, qu'il s'agisse des courants chassidiques ou de la tendance appelée lituanienne, qui est moins mystique, sont nées et se sont développées en grande partie en réaction au progrès des Lumières juives contre la modernité et donc en opposition aux promesses émancipatrice du sionisme. L'État d'Israël était par conséquent, et c'est encore assez largement le cas, perçu comme une menace, l'une des incarnations d'une modernité laïcisante et assimilatrice. À cela s'est ajoutée la crainte, très tangible après la Shoah, d'une disparition du monde juif traditionnel. Autant de raisons qui ont poussé les représentants politiques de l'ultra-orthodoxie israélienne à exiger de David Ben-Gurion que plusieurs centaines de jeunes étudiants d'école talmudique, de yeshivot, il n'était que 400 en 1949, soient exemptés de toute obligation militaire. Au fil des années, le nombre de jeunes haridim exemptés a augmenté régulièrement jusqu'au tournant de 1977. La droite, dirigée par Menachem Begin, arrive pour la première fois au pouvoir et le parti ultra-orthodoxe Agudat Israël réintègre la coalition gouvernementale après des décennies dans l'opposition. Il obtient que la dispense du service militaire concerne l'ensemble des jeunes haridim, sans aucune exception. L'exemption accordée jusque-là selon des critères stricts devient la règle. Dynamisme démographique aidant, elle finira par concerner plusieurs dizaines de milliers de jeunes par an. On est bien loin des 400 accordés par Ben-Gurion aux orthodoxes. 1977, année charnière donc, tout comme sur ce plan, comme sur bien d'autres. L'année 2023, les massacres commis par les commandos terroristes le 7 octobre, la longue guerre qui a suivi, la mort de plusieurs centaines de soldats, les très longues périodes effectuées par les réservistes, mis à contribution comme jamais peut-être auparavant, autant de développements qui ont rendu inacceptable pour de larges parts de la société israélienne cette sorte de régime d'exception qui permet à certains jeunes juifs israéliens, du seul fait de leur affiliation à telle ou telle communauté religieuse, de ne pas avoir à effectuer de service militaire, alors que les autres, qu'ils soient laïcs ou nationaux religieux, sont dans l'obligation de le faire, souvent en péril de leur vie ou de leur intégrité physique ou psychique. Alors cette inégalité de traitement est d'autant plus mal vécue que l'armée elle-même ne cesse de répéter qu'elle est confrontée à un problème de manque d'effectifs. La guerre contre le Hamas a coûté la vie à plusieurs centaines de soldats, appelés du contingent ou réservistes, et plusieurs milliers d'autres, invalides ou traumatisés, sont dans l'incapacité de servir. La grande majorité des Israéliens n'acceptent donc plus l'exemption dont bénéficient les jeunes orthodoxes, et Tzahal n'a pas assez de soldats ou de soldates d'ailleurs. À cela s'est ajoutée une configuration juridico-politique presque inédite. La Cour suprême a une nouvelle fois abrogé la précédente loi qui régularisait les dispenses du service militaire pour les jeunes Haredim, et la coalition éprouve bien des difficultés à faire voter une nouvelle loi qui puisse satisfaire les rabbins et les politiciens ultra-orthodoxes tout en ne sacrifiant pas ouvertement le principe d'égalité devant la loi, faute de quoi la Cour suprême abrogera une nouvelle fois le texte. L'approche des échéances électorales complique encore un peu plus la situation. Et face à cette nouvelle donne, on constate deux types de réactions très différentes, antinomiques même. La première, une augmentation encore modeste, mais réelle, du nombre de Haredim qui rejoignent les rangs de l'armée. L'effet d'un sentiment de solidarité patriotique après le cataclysme du 7 octobre peut-être, mais plus encore, la conséquence de l'absence de loi régularisant le statut des jeunes étudiants de yeshivot face au service militaire. Parmi les conséquences, on peut citer la suppression de certains avantages économiques ou fiscaux. Seconde réaction, plus fréquente, face au risque, plus réel que jamais, d'une suppression, même graduelle, même partielle, de la dispense du service national, eh bien l'ensemble des courants ultra-orthodoxes a fait bloc et s'est radicalisé. On a pu entendre des propos d'une rare virulence de la part de certaines figures rabbiniques, la plupart d'entre elles répétant par exemple qu'il n'était pas même question d'accepter l'enrôlement des jeunes ultra-orthodoxes qui n'étudient plus, ou plus vraiment, dans les yeshivot ou écoles talmudiques. Par ailleurs, on a constaté que certains slogans, comme le fameux « nous mourrons plutôt que d'être incorporés » ou « nous ne croyons pas au pouvoir des mécréants, nous ne nous présenterons pas à leur bureau de recrutement », des slogans qui, il n'y a pas si longtemps, étaient surtout l'apanage des tendances les plus marginales, les plus anti-sionistes, eh bien, étaient désormais repris avec un certain enthousiasme par des jeunes affiliés au mainstream de l'ultra-orthodoxie israélienne. Le décalage sur cette question avec les autres composants de la société juive israélienne est flagrant, difficilement dépassable dans le contexte actuel. La défiance, la colère parfois envers les Haredim semble plus vive que jamais auparavant, et ce sont peut-être les sionistes religieux qui les ressentent avec le plus d'intensité. Les représentants de ce secteur considèrent qu'ils constituent la preuve la plus solide, l'illustration la plus convaincante qu'il est possible de concilier respect des commandements religieux, étude des textes sacrés et contribution à la défense du pays. De ce point de vue, leur rejet du monde ultra-orthodoxe est d'autant plus affirmé que les nationaux religieux sont bien plus nombreux que leur proportion dans la population à servir dans les unités combattantes et à suivre les cours d'officiers de l'armée. On estime qu'environ 40%, parfois davantage, des officiers d'infanterie, de blindés ou du génie sont issus du réseau scolaire sioniste religieux. Et parmi les soldats tués au cours de la guerre menée contre le Hamas et contre le Hezbollah au Liban, eh bien, le nombre d'appelés de réservistes affiliés plus ou moins à cette mouvance était particulièrement élevé, disproportionné par rapport, encore une fois, à leur poids dans l'ensemble de la société. Alors pour bien comprendre les raisons de cette évolution, un autre petit retour en arrière s'impose. Si on l'a vu, l'année 1977 a constitué un tournant dans les relations entre les ultra-orthodoxes et l'armée, c'est l'année 2005 qui pourrait être l'équivalent pour les nationaux religieux. C'est en effet en 2005 que le premier ministre de l'époque, Ariel Sharon, décide de faire évacuer les implantations israéliennes dans la bande de Gaza en vue d'un retrait total des troupes de ce territoire. Pour la première fois, l'État d'Israël, considéré comme l'instrument de la rédemption par bon nombre de sionistes religieux, tourne le dos à l'idéal de reconquête de la terre et se dresse contre le mouvement des implantations. En réaction et pour éviter que de tels retraits se reproduisent à l'avenir, eh bien les nationaux religieux ont décidé de partir à la conquête non plus uniquement de la terre, mais également de l'État et de ses institutions, au premier rang desquelles l'armée, où ils finirent par supplanter au poste de commandement la jeunesse des kibboutzim, même si cette dernière est encore surreprésentée. C'est constitué peu à peu un corpus idéologique alliant religiosité, nationalisme de la terre et militarisme, enseigné et promu dans plusieurs institutions politico-éducative, dont la plus connue est probablement l'Institut de préparation au service militaire Bnei David, véritable pépinière de futurs officiers et cadres de l'armée, située, et ce n'est bien évidemment pas un hasard, dans l'une des implantations les plus marquées idéologiquement, celle de Eli. Alors naturellement, tous les nationaux religieux servant dans les rangs de Tsahal n'adhèrent pas à la totalité des éléments de ce corpus idéologique, mais force est de constater que l'aile la plus militante du courant sioniste religieux, à travers certains des soldats et des officiers qui lui étaient affiliés, a donné à la guerre contre le Hamas une portée théologico-politique, voire messianiste. Pour bon nombre de militaires éduqués dans ce courant, la guerre constituait l'occasion de corriger l'erreur historique, selon eux, du démantèlement des implantations de la bande de Gaza, en mobilisant tout un peuple traumatisé et définitivement convaincu de l'impossibilité de parvenir à un compromis avec les Palestiniens. Ces mêmes soldats et officiers ont tenté d'insuffler à l'ensemble des troupes, parfois avec un certain succès, un état d'esprit religieux, une signification théologique. Les combats menés contre le Hamas n'étaient pas à leurs yeux qu'une simple riposte contre l'organisation terroriste responsable du pire massacre de juifs depuis la Shoah, mais une guerre sacrée, une étape vers la rédemption. Cette interprétation a naturellement été démentie par les faits, en premier lieu par l'accord de cessez-le-feu et d'échange d'otages israéliens contre détenus palestiniens, accord imposé aux différents protagonistes par le président américain Donald Trump. Il est significatif de constater que depuis, eh bien, l'aile la plus rigide idéologiquement du sionisme religieux porte le fer sur un autre aspect de l'expérience militaire israélienne. On constate en effet ces dernières semaines qu'une véritable campagne est menée par ce courant contre la présence des femmes dans les rangs de Tsahal, notamment dans les unités de combat. Elles n'ont d'ailleurs jamais été aussi nombreuses. Selon les données officielles fournies par l'armée, 10 fois plus de femmes servent dans ces unités qu'il y a seulement une douzaine d'années. Et parmi elles, un nombre croissant de sionistes religieuses qui défient donc ouvertement les consignes, voire les interdictions émises par la plupart des rabbins de leur courant, qui sont hostiles au service militaire des jeunes femmes. Une évolution qui non seulement inquiète les milieux religieux conservateurs, mais qui incarne et résume, de leur point de vue, l'influence délétère qu'auraient sur l'armée les théories égalitaristes et féministes importées de l'Occident. On a pu voir sur la chaîne de télévision pro-gouvernementale 14 une émission tentant de minimiser l'héroïsme et les compétences de l'une des toutes premières commandantes de bataillons d'infanterie, ainsi qu'un spot mettant en scène le désarroi d'une mère de famille sioniste religieuse constatant qu'une jeune soldate avait pris place aux côtés de son mari à l'intérieur d'un véhicule blindé. Évoquons aussi cette pétition signée par plusieurs rabbins importants adressée à Benjamin Netanyahou. Elle demande au Premier ministre de mettre un terme, tout simplement, au service militaire des jeunes femmes, faute de quoi les jeunes hommes religieux pourraient être incités à servir avec moins de dévouement, voire même, écrivent les pétitionnaires, à ne pas remplir leurs obligations militaires. Dans l'état actuel des choses, ce combat semble mal engagé, mais il prouve tout de même que les courants les plus déterminés du sionisme religieux considèrent que l'armée, du fait de sa centralité dans la société israélienne, du fait aussi du brassage des populations dont elle est encore le cadre, est le lieu privilégié d'une lutte pour l'avenir de la société israélienne. Lutte dont l'issue déterminera quelles seront les valeurs qui la façonneront. De ce point de vue, les efforts considérables fournis par l'armée pour permettre aux jeunes ultra-orthodoxes, on y revient, d'effectuer un service militaire complet sans à aucun moment devoir communiquer avec une femme soldate, voire même avec des soldats éloignés de toute pratique religieuse, ces efforts indiquent que l'institution militaire a renoncé en grande partie au rôle d'intégrateur social, qui était plus ou moins ouvertement le sien pendant plusieurs décennies. Si cette tendance se confirme, et la nature ayant horreur du vide, eh bien les différents courants théologico-politiques investiront l'armée avec davantage de facilité, ce qui ne manquera pas de peser sur l'ensemble de la société.